à 9h20, c'est la revue de presse avec vous, Elia Bergel, bonjour.
Bonjour à tous.
Ce matin, vous nous parlez des alternatives à la viande, la fausse viande et les résistances que cela provoque en France chez les agriculteurs.
D'un côté, Cédric Vialmonteil et ses 130 vaches dans le Cantal s'élevaient à 6h30 tous les matins et les prix du lait toujours plus bas qu'il asphyxie. De l'autre, les nouveaux fermiers, une jeune entreprise, seul acteur français à proposer steak, nuggets ou hachés végétal. On a 3-4 ans de retard sur les États-Unis ou les Pays-Bas, regrette dans les colonnes de M, le magazine du Monde, un des cofondateurs de la marque, tout juste âgé de 27 ans. C'est une honte, rien ne pourrait être plus éloigné de la ferme française, s'emporte quant à lui Cédric l'éleveur. Les dirigeants des nouveaux fermiers racontent les insultes, les tentatives d'intimidation sur les réseaux sociaux. Où se trouve leur usine? C'est confidentiel, comme le chiffre d'affaires.
Et surtout ne pas attirer l'attention de lobbies comme l'Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes.
En septembre 2020, elle assigne en justice les nouveaux fermiers à cause de l'utilisation des mots viande et fermier. Plus tôt, cette année-là, les députés votaient pour l'interdiction des mots animal, steak, saucisse pour les aliments à base de protéines végétales. Et pourtant, s'agit-il d'un combat perdu d'avance? En mai, Burger King lance le Veggie King, un sandwich au haché végétal, succès complet et inattendu. Dans la Sarthe, Étienne Fourmont, éleveur de vaches depuis 40 ans, confie au magazine du Monde qu'il sent bien le vent tourner. Il espère simplement que ces viandes de demain seront produites chez nous grâce au savoir-faire des agriculteurs français.
Et en Espagne, les défenseurs des animaux mettent carrément sur pied des sanctuaires.
Des refuges où les animaux de la ferme peuvent vivre paisiblement, assure un article sur le site web du Guardian. Le quotidien anglais raconte comment ces activistes véganes sont allés voler Margarita, une vache promise à la mort, avant de la ramener dans leur refuge de Catalogne. Elle côtoie désormais le taureau Pedro, Paola, la truie, Flavia, la chèvre, un havre de paix au pays des matadors et du jamón ibérico.
Ce matin, Elie, vous nous parlez aussi d'une médaille tellement française.
Aux Jeux Olympiques de Tokyo, le judoka Luca Meredze a ouvert hier le compteur tricolore en arrachant une médaille de bronze. L'équipe lui consacre sa une, on le voit à genoux sur le tatami après le combat, les poings serrés, le visage bouleversé par les émotion. Notre histoire, titre le quotidien sportif, celle d'un réfugié de la guerre de Géorgie, naturalisé en 2015 seulement. À son arrivée en région parisienne, il se présente dans un dojo avec une lettre traduite, disant qu'il sait faire du judo, même si il ne parle pas encore bien français. Mais désormais, ça aussi c'est réussi.
Bonjour tout le monde, je voulais vous faire ce petit message, déjà pour vous montrer ma médaille. Je voulais aussi vous remercier. À bientôt.
La soif d'or aux Jeux Olympiques, ça concerne pas que les athlètes.
Oui, à chaque compétition sportive, ça ruait vers l'or des parieurs. L'hebdomadaire La Vie raconte sur son site comment Winamax, Betclic et d'autres organismes de paris en ligne visent désormais un public plus jeune. Vous les avez sans doute vus, ces pubs qui reprennent les codes de la culture urbaine.
Vos matchs deviennent beaucoup, beaucoup trop intenses avec Betclic. Betclic, no bet, no game.
Les jeunes des quartiers défavorisés, sans doute perçus comme moins armés pour résister à l'attrait de l'argent facile par les génies du marketing. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies confirme en expliquant que les pratiques à risque se rencontrent chez des hommes plutôt jeunes, issus de milieux modestes.
Mais comment passe-t-on de parieur occasionnel à flambeur inconscient, Elie ?
Tous les addicts ont à un moment gagné. C'est là que se produit l'accroche avec le jeu, selon un psychologue de l'hôpital Marmottan à Paris. Gagner avant de perdre gros, François témoigne dans La Vie. Il s'en sort avec 30 000 euros en moins, mais d'autres n'ont pas cette chance. Le jeu d'argent est l'une des addictions les plus suicidogènes. Le nombre de tentatives de suicide est 15 fois supérieur à celui de la population normale, souligne un psychiatre cité par l'article. Un témoignage anonyme aussi, une dame impuissante devant la descente aux enfers de son conjoint qui devient son ex. Il vole sa propre famille, il passe par la case justice, il finit par se suicider, englouti par les dettes de jeu.
Et ce matin également dans la presse, une fausse bonne idée.
Planter des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. Des initiatives de ce genre fleurissent partout, de la part d'entreprises en quête d'une image écolo, d'institutions souvent bien intentionnées. Mais dans son numéro du mois d'août, le nouveau magazine scientifique Epsilon explique que les arbres semblent incapables de limiter le réchauffement climatique.
Cela va même plus loin, Elie, puisque le magazine s'interroge, s'agit-il d'un remède pire que le mal ?
On sait désormais, nous dit Epsilon, que les arbres plantés dans des plaines inondables agissent comme des cheminées en libérant du méthane contenu dans ces sols peu oxygénés. En Chine, des peupliers introduits dans les régions arides pompent plus d'eau qu'il n'en pleut et ont fait donc baisser le niveau des nappes phréatiques locales. Et puis tout ce dioxyde de carbone stocké dans les arbres peut être massivement relâché d'un coup en cas de feux de forêt, comme ces incendies immenses qui ravagent la Californie chaque été.
Alors qu'est-ce qu'on fait? On annule tout? On coupe tous les arbres?
Évidemment, non Amélie, reposez votre tronçonneuse. Semez le bon arbre au bon endroit, ça pourra apporter de nombreux bénéfices. Pas question de relativiser les effets néfastes de la déforestation non plus, mais le magazine est formel, nos rejets de gaz à effet de serre sont déjà allés trop loin pour que la végétation puisse nous sauver.
Et puis Élie, pour terminer, vous nous parlez d'une vie de roman.
À Lyon, le Progrès raconte Muriel Ferrari, la tenancière du bouchon chez Muriel. Sa vie rocambolesque, parfois tragique, ne tiendrait pas dans un film. Sa mère assassinée quand elle a 2 ans, enceinte à 14 ans, pickpocket, prostituée, mais ne lui dites pas qu'elle a subi son existence. J'ai toujours été maître de mon destin, assure Muriel au Progrès. Ses 8 ans de prison au total, j'y ai eu de franches rigolades, répond-elle. 20 ans à se prostituer, à courir les palaces, à voyager, avant de devoir se ranger, acculée par le trésor public qui réclame 500 000 francs d'impôts non payés. Une formation de cuisine et la voilà au fourneau, avec peut-être quelques regrets. Je vis, pas malheureuse, mais pas tellement heureuse, raconte Muriel, 66 ans. Et la suite, peut-être une maison dans le Cantal, dit-elle, seule, tranquille, avec de grosses pierres et une immense cheminée.
C'était la revue presse d'Élie Habergel. Merci Élie.